Hélène Roussel,
Yaël Gauz,
le 7-9.
Nous sommes le mercredi 29 avril. Bon réveil, bonne journée, bienvenue dans ce 7-9 de France Inter. On commence avec le journal. Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
On n'en sait plus sur les écoles. Le 4 mai, tout élève de primaire connaîtra son parcours. Des lycées peut-être fermés jusqu'en septembre. Toute dernière précision donnée hier soir par le ministre de l'Éducation. Les autres titres, Bernadette.
Eh bien justement, dans les écoles, plus de temps à perdre. La mise en musique a commencé. Rencontre avec un maire d'accord pour ouvrir. Déplacement, la nouvelle règle des 100 km et sans doute nouvelle attestation. Commerce, ouverture de rideaux sous strictes conditions sanitaires. Dans l'alimentaire, les usines tournent à plein régime. Grand format de ce journal Blédina en Corrèze. Testé, isolé, Édouard Philippe annonce 700 000 dépistages par semaine et des brigades pour isoler les malades. Enfin en sport, clap de fin pour la Ligue 1 et feu vert pour certaines activités de plein air.
Les invités de France Inter, ce matin à 7h50, Yael Gauz, vous recevez
l'insoumis Alexis Corbière, semi-déconfinement. Donc le 11 mai, en attendant le 2 juin, plan approuvé hier soir par les députés, mais 100 députés ont voté contre, parmi eux les insoumis. Qu'est-ce qui cloche, selon eux, dans ce plan ? Reprise économique et retour à l'école, est-ce forcément incompatible avec l'enjeu sanitaire ? Le député de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, nous rejoint dans 45 minutes.
Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. La reprise le 11 mai, mais sous quelle forme, sous quelles conditions ? Le télétravail, le chômage partiel, le chômage tout court. Vos questions dès maintenant, chers auditeurs, au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
École, c'est donc la nouvelle date importante à retenir pour les familles. Le 4 mai, lundi prochain, à partir de cette date, elles en sauront plus sur le parcours de leur enfant. La réouverture des maternelles et des primaires, confirmée le 11 mai, inquiète toujours énormément parents et enseignants. Le ministre de l'Éducation a donc tenu dès hier soir, quelques heures après l'intervention d'Édouard Philippe, à donner des précisions. Sonia Princey.
Beaucoup de questions restent en suspens. Les élèves ne seront pas plus de 15 par classe, mais comment seront-ils choisis si les parents décident de leur faire reprendre l'école ? Le ministre répond que l'organisation précise se fera au niveau local. C'est un cadre national qui est fixé, dit-il, avec beaucoup de souplesse locale. Des discussions vont s'engager entre l'éducation nationale et les maires et chaque famille devrait être informée la semaine prochaine, entre le 4 et le 7 mai, de ce qui est prévu dans l'école de son enfant. Il va y avoir un protocole sanitaire, a promis Jean-Michel Blanquer, mais les syndicats d'enseignants s'inquiètent de ne pas avoir encore les critères précis, car c'est à ce moment-là que les écoles pourront dire si les élèves peuvent être espacés d'un mètre minimum dans la classe, s'ils peuvent se laver les mains régulièrement, si un nettoyage plus fréquent des locaux peut être assuré. La date du 11 mai est prématurée, estime le SNUIPP, le principal syndicat du primaire. Quant aux collégiens de 4e, 3e et aux lycéens, ils devront poursuivre l'enseignement à distance en intégralité. Le gouvernement décidera fin mai de leur sort. Le ministre n'exclut pas que les lycéens ne reprennent qu'en septembre.
Alors sur cette reprise seulement en septembre, peut-être pour les lycées, mais aussi peut-être pour les collégiens de 4e et de 3e, eh bien, une décision sera prise fin mai après évaluation de la situation sanitaire. La reprise pour les élèves de 6e et 5e est maintenue au 18 mai. Des parents donc un peu plus au courant dès la semaine prochaine. Autre certitude, le volontariat reste la règle, mais les points à préciser restent innombrables. Le chemin se fera en marchant, c'est ce que pense le maire de Clamart dans les Hauts-de-Seine, et la marche a déjà commencé pour lui. Jérôme Val l'a rencontré.
Jean-Didier Berger a toujours l'intention d'ouvrir les 23 écoles de sa commune à partir du 11 mai, malgré le flou sur certains points, comme quand le Premier ministre explique que le retour en classe sera progressif.
Comment ça peut être très progressif sur 8 classes d'âge, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 ? Moi, je peux proposer, par exemple, de faire 5 heures de rentrée différentes, 8h, 8h15, 8h30, 8h45, 9h, pour essayer d'étaler les flux.
Mais même avec ce système, comment faire respecter les conditions sanitaires strictes ? Faites confiance aux élus de terrain, martèle le maire de Clamart, une commune qui compte plus de 5000 élèves.
Entre une école toute neuve et une école très ancienne, entre une petite école et une très grande école, évidemment, il va falloir vraiment s'adapter au cas par cas.
Pas rassuré non plus quand Jean-Didier Berger entend que des enfants pourraient être accueillis en dehors de la classe, mais sous la surveillance de la mairie.
On est en train de nous demander de prendre en charge une partie des enfants, soit en activité sportive et culturelle, soit en études. Donc il va falloir regarder avec quels moyens, avec quels locaux, avec quelle tarification aussi le cas échéant.
Le maire de Clamart, qui a commandé des masques, des tests et des thermomètres pour tout le personnel municipal, va maintenant discuter avec les parents d'élèves avant de demander son avis la semaine prochaine à un conseil scientifique local.
De plus en plus de maires refusent d'ouvrir les écoles le 11 mai. Certains annoncent même une fermeture jusqu'en septembre. Édouard Philippe doit être en visioconférence aujourd'hui avec les associations d'élus.
Un plan de déconfinement largement approuvé hier par les députés.
En tous les cas, par la majorité, LREM et Modem, 368 voix pour, mais le Premier ministre n'a pas convaincu les députés de l'opposition. Oui, il y a des trous dans la raquette. Édouard Philippe l'a reconnu, il ne le dit pas avec ses mots, mais c'est bien ce qu'il pense quand il répond à la droite qui pointe les manquements du plan. Alors, tester, isoler, c'est le mantra du gouvernement pour l'après 11 mai. 700 000 tests seront réalisés chaque semaine sur toute personne qui présente des symptômes. Une tâche qui sera dévolue aux médecins généralistes. Ensuite, entrée en action des brigades pour l'isolement des malades et de leurs contacts. On écoute le Premier ministre.
Dès lors qu'une personne aura été testée positive, nous engagerons un travail d'identification et le test de tous ceux, symptomatiques ou non, qui auront eu un contact rapproché avec elle. Tous ces cas contacts seront testés et seront invités à s'isoler compte tenu des incertitudes sur la durée d'incubation. L'objectif final de cette politique ambitieuse de test, c'est de permettre d'isoler au plus vite les porteurs du virus afin de casser les chaînes de transmission.
Édouard Philippe, donc, devant l'Assemblée nationale hier, recruté pour ces brigades. Il faudra peut-être 30 000 personnes recrutées dans les associations, mais aussi du personnel de mairie. Déconfinement progressif, déconfinement aussi différencié par département, large dans les départements divers, plus strict dans les départements rouges. C'est une nouvelle carte, une carte de France bicolore qui sera présentée dès demain soir par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, et qui sera actualisé tous les jours jusqu'au 7 mai.
Autre déconfinement à petits pas, les déplacements.
Édouard Philippe a bien annoncé la fin, le 11 mai, des attestations à remplir chaque jour. Fini la règle du 1 km, mais nouvelle règle, celle des 100 km. L'idée, éviter les grandes migrations des ponts de mai, migration estivale aussi. Au-delà de 100 km, il faudra avoir une bonne raison professionnelle ou une raison familiale majeure. Emmanuel Leclerc.
Faut-il créer une nouvelle attestation spéciale déplacement longue distance pour des raisons professionnelles ou familiales impérieuses? C'était la question hier soir que l'on se posait dans l'entourage du ministre de l'Intérieur. Les stratèges de la place Beauvau ont sévré quelques jours devant eux pour concevoir un éventuel nouveau sésame à remplir à partir du 11 mai. Quelques jours également pour revoir avec les dirigeants de la police et de la gendarmerie les dispositifs de contrôle à mettre en place pour dissuader celles et ceux qui voudraient quand même prendre enfin quelques jours de vacances à l'autre bout du pays durant la deuxième quinzaine du mois de mai et peut-être en juin. Ce qui est sûr, c'est que ça sera forcément plus difficile qu'aujourd'hui où les autoroutes sont encore quasiment désertes. Les 1500 CRS des compagnies autoroutières et leurs équivalents chez les gendarmes se sont concentrés ces derniers jours sur les très grands excès de vitesse, encore plusieurs dizaines cette semaine. Mais là, ce sera une toute autre affaire pour être efficace, confié hier soir deux cadres du ministère de l'Intérieur, y compris pour les contrôles dans les gares, avec le retour au travail de centaines de milliers de salariés qui vivent dans un département et travaille dans un autre.
Dans les transports toujours, la réservation sera obligatoire dans les TGV, mais aussi dans les trains régionaux, a dit le Premier ministre. Ce n'est pas le cas actuellement, et là encore, c'est une question à préciser. Une certitude, le port du masque sera obligatoire pour tous les passagers dans les transports publics, au moins jusqu'au 2 juin. Le 2 juin, c'est la date fixée pour évaluer la situation financière. De même, il y aura un siège sur deux pour respecter la distanciation sociale.
7h09, l'attente encore pour les cafés et les restaurants, seront fixés fin mai.
Et oui, ils seront fixés fin mai. Grosse déception parmi la profession. Pour les commerces non alimentaires, là, le lever de rideau est confirmé pour le 11 mai. À Lyon, Christophe Vincent, vous êtes allé à la rencontre de commerçants soulagés mais circonspects.
Fleuriste, Virginie est pressée de rouvrir, mais pour elle, les modalités restent floues.
Nous, on a l'avantage qu'on peut rester ouvert, donc les gens ils peuvent attendre devant la porte. On sait que nous, on aura tous des masques et des visières, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir en avoir. Tous les gens qui passent nous demandent s'ils peuvent acheter, on ne peut pas leur vendre. Tout le monde attend.
Hugo livre ses pizzas, mais il est sans solution pour le restaurant.
Pour nous, la vraie réouverture, elle se ferait sans les aménagements, parce que respecter un mètre de distance dans les restaurants, c'est compliqué. On est prêt à attendre pour que ça se déconfine totalement.
Frédéric s'est mis au télétravail. Cet cadre de santé pense devoir continuer au-delà des 3 semaines supplémentaires annoncées par Édouard Philippe.
C'est pas l'idéal, mais on peut quand même travailler correctement. Moi, j'ai pas d'urgence de retourner au bureau dans la mesure où je peux avoir des liens très faciles avec mes collègues de travail et mes partenaires de travail.
Le télétravail, Eric l'utilise pour ses devis, mais ce cuisiniste attend le 11 mai pour relancer ses chantiers.
C'est un grand soulagement. Dès que les fournisseurs ouvrent, on peut racheter de la marchandise et les chantiers redémarrent. Les dates de chantier sont déjà fixées, 12, 13, 14, 15, c'est reparti quoi. Il va falloir récupérer le retard.
Tous avouent entrevoir le bout du tunnel. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Alors faudra-t-il porter un masque dans les commerces? Le port sera en tous les cas recommandé et les commerçants pourront vous refuser l'entrée si vous ne portez pas de masque. Alors dans le domaine économique, certaines usines, on l'a vu, ont repris du service ces derniers jours. L'automobile notamment qui était à l'arrêt, Renault hier matin, Toyota la semaine dernière. D'autres ne se sont jamais arrêtés dans l'agroalimentaire notamment. C'est le cas pour Blédina à Brive-la-Gaillarde en Corrèze où on a tourné plus que jamais. Reportage Faustine Calmel.
Allez, impeccable. Parmi les nouvelles mesures sur ce site de 408 salariés, prise de température et distribution de masques. Ensuite, c'est du classique pour une usine agroalimentaire. Lavage de mains, blouse, charlotte sur les cheveux avant d'entrer.
C'est la purée de fruits. On la bascule sur l'emboîteuse que l'on a là et on va remplir les petits pots en direct.
Yann Garaud, responsable santé et sécurité, nous fait traverser l'usine où il a fallu faire quelques aménagements.
Depuis le Covid, on a démonté les butées pour ne pas avoir à toucher la barrière avec les mains et de pouvoir la pousser comme ça.
Avec la hanche, sans contact.
C'est des petits ajustements, mais vu le nombre de barrières, ça en fait quelques-unes quand même.
Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés partout, mais pour continuer à sortir entre 700 et 800 petits pots à la minute, impossible de se passer du personnel de production.
Enlever du monde, ça veut dire qu'on va augmenter la charge de travail de certains. Donc on a maintenu nos effectifs, et ce qu'on a plutôt travaillé, c'est les espacer, limiter les croisements, les regroupements de personnes.
Les rythmes de travail ont été revus, les 3-8 adaptés, explique Corinne Belli, qui accompagne les salariés sur les lignes.
On a décalé leurs horaires pour qu'ils n'arrivent pas tous en même temps au niveau des vestiaires. Et en fait, on arrive d'un côté et on ressort d'un autre côté. Donc ça veut dire que quand on quitte son poste, on ne croise pas les personnes qui arrivent.
Résultat, pas de transmission au sein de l'usine et une production constante. Mais la situation ne doit pas durer, assure le directeur Nicolas Perrin.
Aujourd'hui, on s'est interdit l'intervention d'entreprises externes à l'intérieur même de l'usine pour dédensifier un maximum nos lignes de production, que ça soit sur l'innovation ou que ça soit sur le management de l'obsolescence ou de la technique de nos lignes, ça ne peut pas durer.
La construction de bâtiments a été stoppée, des essais de nouveaux produits reportés. Alors il faut que l'on revienne à la normale au plus vite, poursuit le directeur.
Un reportage grand format à retrouver sur franceinter.fr. Pour le foot professionnel, en une phrase, Édouard Philippe a ruiné les espoirs d'un retour à la compétition pour la Ligue 1 et la Ligue 2 aussi. Une vraie onde de choc pour le football français, Cédric Guillou.
Ne pas finir les championnats cet été, c'est tout le contraire des scénarios envisagés et travaillés depuis des semaines par les instances du football français. Mais la sagesse l'a emporté, selon Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice.
C'est vrai que cette reprise, dans les conditions dans lesquelles nous allions la faire, a donné très très peu de visibilité sur le plan sanitaire. J'ai pas mal d'appréhension par rapport à cette reprise. Voilà, je pense que c'était vraiment très compliqué.
Cette décision va pénaliser de nombreux clubs, mais elle a au moins le mérite d'être claire après plusieurs semaines d'incertitude et de controverses pour le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot.
Maintenant, on sait dans quel sens on va travailler. Moi, je suis très frustré parce que depuis des semaines et des semaines, on travaille sur tous les scénarios. À chaque fois, on n'avait pas d'échéance. Là, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et donc, là, maintenant, on sait dans quel axe on va travailler.
Le bureau de la Ligue de football professionnel se réunira demain pour étudier les conséquences économiques et sportives des mesures annoncées par le Premier ministre. Bureau qui sera suivi d'un conseil d'administration qui devra décider formellement de l'arrêt de la saison actuelle.
Et pour cet été, balade en montagne, ok, mais pour la plage, il faudra attendre début juin pour savoir si on peut bronzer idiot, Hélène.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz.